Europe 1.
<rire> 16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement Vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire sans se la raconter, à la rencontre de personnages pittoresques, en présence d'un autre individu assez pittoresque dans son genre, mon précieux complice Stéphane Bern. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Oui, chaque après-midi dans Historiquement Vôtre, on vous fait découvrir des personnages de l'histoire issus d'époques très différentes, mais partageant un point commun. Aujourd'hui, non pas trois personnages, mais trois couples. Des couples de malfaiteurs. À commencer, Mathieu, par le couple de malfaiteurs le plus célèbre de l'histoire. Je vous le donne en mille.
Ah bah les Balkany.
Non, Mathieu, Bonnie and Clyde.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Et oui, Bonnie Parker and Clyde Barrow, les gangsters stars qui ont fait peur à l'Amérique, mais qui ont fasciné le monde entier. Puis je vous raconte un couple beaucoup plus flippant. Raymond Fernandez et Martha Beck, dit les tueurs aux petites annonces, qui ont sévi dans les années 40 avant de finir électrocutés contre leur gré.
Il y a peu de gens dans l'histoire qui ont été électrocutés.
Ah
de bah,
sauf si vous jouez avec, avec les fils électriques.
Là, ça peut vous... Ah, encore une pratique un peu étonnante, un peu déviante comme ça de Stéphane Bern. Dans... C'est le Bern intime, ça c'est... Oui. Attention donc au voltage, hein, c'est ce que vous dites à, voilà. À vos amis.
Quant à vous Mathieu, vous nous parlerez d'un couple de malfaiteurs encore bien vivants, les Balkany.
Mais non Stéphane, oui, mais vous aussi, vous vous demandez pourquoi on ne leur consacre pas une petite partie dans notre émission. Eh bien parce qu'ils sont finalement moins rigolos que mes deux héros du jour, Wolfgang et Hélène Beltracchi, des faussaires de haut vol. Pendant des années, ils ont berné toutes les galeries d'art, tous les plus grands experts, les obligeant désormais à se remettre en cause en permanence, à douter. Ce Renoir par exemple au-dessus de votre canapé Stéphane, est-il vraiment un Renoir? On verra ça tout à l'heure.
Ah bon? Et avec nous comme chaque jour, Clémentine Portier-Kaltenbach qui nous entraîne évidemment comme chaque jour, dans l'intimité des grands de ce monde.
Et oui, bonjour messieurs. Alors moi, il y a quand même quelque chose qui me trouble, c'est votre fascination pour les malfrats.
On est comme ça.
Ça vous interroge pas un peu quand
même ? On est abonnés à Détective, nous.
Ah bon, alors mais... Bon, écoutez, puisque je suis, comme vous le savez, l'aumônière de cette galère radiophonique, eh bien, plutôt que de parler de malfaiteurs, moi, je vais parler d'un bienfaiteur, de l'humanité, Sir Richard Wallace, à qui la ville de Paris doit notamment les célèbres fontaines Wallace.
Et la Wallace Collection à Londres. Qui
oui, mais enfin, c'est moins facile d'y aller.
Avec nous également, David Castello-Lopez.
Oui,
David,
tout à fait.
Quoi, vous, les inventions
les origines des objets de notre quotidien. Aujourd'hui, vous savez, ces bornes pour noter les choses de la vraie vie. Dans les toilettes des aéroports, par exemple. Est-ce que vous avez bien fait pipi? Vous
appuyez sur le petit bouton. Je ne touche jamais parce qu'il a peur que ce soit sale.
Et on les a vus fleurir depuis quelques années partout pour noter toutes les choses de notre existence. Et moi, je me suis demandé d'où elles venaient.
Est-ce que vous avez déjà noté un tarama? Bon? Pas bon?
Non, c'est vrai.
Franchement mauvais, souvent, d'ailleurs.
Franchement mauvais.
Et moi, qui pense que c'est une vraie question.
Mais oui, et vous, vous ne pensez pas transition.
Alors, évidemment, il faut le dire, notre ami Mathieu Noël porte un sweat couleur tarama.
Oui, mais couleur mauvais tarama.
Le bon tarama ne doit pas être trop rose.
Ben non, exactement. Alors, comment fait-on un bon tarama? Je vais vous le dire, mais on remontera aussi aux origines de cette délicieuse préparation.
Vous avez appris le premier tarama.
Ah, le premier homme qui un jour a eu l'idée de faire un tarama.
Il a ouvert un poisson, il a vu qu'il y avait des œufs.
Mais laissez un peu de mystère, un peu de poésie, Stéphane. Enfin, dans une spéciale consacrée au couple de malfaiteurs de l'histoire, ils ont leur place. Clémentine Portier-Kaltenbach, qui ne savait même pas qu'Abraham Lincoln aurait pu envoyer un fax, et Stéphane, qui pensait que Marie-France Garraud avait fait la une de Playboy, forment eux aussi clairement un couple de malfaiteurs, des malfaiteurs de l'histoire. On les croyait balèzes, alors que pas du tout. Et tout de suite, Stéphane, découvrons l'histoire palpitante, souvent un peu romancée, du couple de forbans les plus célèbres de l'histoire, Bonnie Parker et Clyde Barrow.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est...
Bonnie.
À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom...
Bonnie Parker.
Et Clyde Barrow.
Bonnie and Clyde.
Ils ont semé la panique chez de nombreux Américains au début des années 30, mais ils ont aussi fasciné le monde entier. Il faut avouer qu'ils étaient beaux. Bonnie en robe droite, la taille fine, les cheveux relevés. Clyde au visage presque enfantin, mais au corps athlétique et au regard sombre. Ce n'est pas pour rien que la presse, les livres et les films ont fait d'eux des stars internationales. Dès leur rencontre aux alentours de janvier 1930 chez un ami commun, Bonnie Parker et Clyde Barrow en sont persuadés. Ils sont faits l'un pour l'autre. Bonnie a 19 ans, elle est déjà mariée depuis 3 ans mais son époux est en prison. Élève modèle, elle a obtenu de nombreux prix d'orthographe et d'écriture mais elle a abandonné l'école pour différents postes de serveuse. Sa vie à Dallas, l'antichambre du diable, comme elle l'appelle, la désespère. Sa seule distraction est le cinéma parlant. Sans encore le savoir, elle sera d'ici quelque temps une héroïne parfaite pour le 7e art. Clyde, lui, est un rebelle. Issu d'une famille très pauvre, à 20 ans, il est déjà connu des services de police. Vol de voiture ou, ce qui peut prêter à sourire, vol de dinde avec son frère. Derrière sa gueule d'ange se cache un dur à cuire. Et dans la famille, son grand frère, Buck, fait aussi parler de lui. C'est lui qui lui aurait tout appris. Clyde, comme Bonnie, n'ont pas été épargnés par la vie. Ils ont grandi tous les deux à Dallas, dans le Texas, un état scindé en deux. D'un côté, de riches entrepreneurs vivent grassement des revenus du coton, du pétrole, de l'élevage intensif. D'un autre côté, les habitants les plus pauvres sont regroupés à l'ouest. West Dallas est une sorte de bidonville sans eau courante, sans électricité, sans tout à l'égout. L'avenir pour Bonnie et Clyde n'est pas des plus réjouissants. Après plusieurs années de récession, l'impensable survient. Le krach boursier d'octobre 1929, jeudi noir. Les banques ferment les unes après les autres. Beaucoup d'entreprises font faillite. De nombreux Texans se retrouvent au chômage. Alors, quand leurs regards se croisent, Bonnie Parker et Clyde Barrow y voient comme une lueur d'espoir. Le monde peut bien s'effondrer, eux peuvent s'aimer et rien ne pourra les séparer. Ou presque. Car l'amour, aussi fort soit-il, ne permet pas d'échapper à la justice. 2 mois après leur rencontre, Clyde est condamné à 2 ans de prison pour 7 accusations de vol et cambriolage. Cela aurait pu effrayer la frêle Bonnie, il n'en est rien. Elle lui prouve son amour inconditionnel en lui faisant passer un pistolet. Grâce à cette prise de risque, Clyde s'évade avec 2 autres prisonniers. Pas pour longtemps. Une semaine plus tard, ils sont de nouveau arrêtés. Pendant que Bonnie attend son bien-aimé, la situation se gâte en prison. Clyde tue son premier homme, un prisonnier qu'il aurait violé à plusieurs reprises. Un autre détenu, condamné à perpétuité, accepte de prendre cet assassinat à son compte. Clyde se refuse de rester en prison et de laisser par la même occasion sa Bonnie seule dehors. Il se coupe alors 2 orteils et est admis à l'hôpital central de la prison.
Pourquoi 2 orteils? Il suffisait d'en couper un, à mon avis, il aurait été admis pareil.
Oui, c'est vrai, mais c'est écoutez...
Un jusqu'au boutiste.
Il a mal visé. Le 2 février 1932, il est libéré sous condition. Dès lors, le destin criminel de Bonnie et Clyde est scellé. En l'espace de quelques mois, il dévalise entre autres une raffinerie, braque la First National Bank de Lawrence, avant d'être finalement arrêté par la police à Electra. Mais ils prennent en otage 3 policiers et 1 facteur. Ils volent 2 voitures et sont pourchassés par la police pendant 18 heures dans le comté de Kaufman au Texas. Bonnie Parker est capturée, Clyde parvient à s'enfuir. Bonnie passe 1 mois en prison avant d'être relaxée. Cette fois, les 2 amants terribles ne se quitteront plus jamais. Ils sont désormais à la tête d'un gang. Le gang Barrow. C'est le nom de cette équipe de bandits qui sème la terreur au début des années 30. Ils sont 3, parfois 4, 5 ou 6. Si certains partent, d'autres sont emprisonnés. Bonnie et Clyde, eux, sont inséparables. L'objectif de ce gang n'est pas de voler ni de tuer sans raison. Clyde ne connaît tout simplement pas d'autres moyens pour survivre. Il projette aussi de libérer des prisonniers dans son ancienne prison d'Eastham. Alors, en attendant avec Bonnie et leurs camarades, ils vivent de braquage. Banques, épiceries, drugstores, souvent, ils n'hésitent pas à prendre en otage leurs opposants, comme ce 14 août 1932, où ils enlèvent un shérif au Nouveau-Mexique et le relâchent 725 km plus loin sur la route du Texas. Bonnie et Clyde sont au début de leur vingtaine. Ils s'aiment, se sentent invincibles et n'ont surtout plus rien à perdre. Les banques ferment, leurs familles et amis perdent tour à tour leur emploi, l'argent, les vêtements qu'ils volent, ça et là, ils les redistribuent à leurs proches. Bonnie et Clyde ne sont pas attirés par la richesse. Leur amour n'a pas de prix. La plupart du temps, ils dorment dans des centres de vacances ou même dans leur voiture. Ils se lavent dans des rivières, se reposent dans des montagnes isolées, empruntent des chemins de campagne. Ils prennent soin de cacher leurs armes sous d'épaisses couvertures. Rapidement, ils sont rejoints par le frère de Clyde et sa femme, Buck et Blanche. Avec un cinquième complice, William Daniel Jones, ils s'installent dans une maison de la ville de Joplin, dans le Missouri. Pendant 13 jours, ils passent leur temps à boire de la bière, jouer au poker, à faire des puzzles, à nettoyer leurs armes et manger. Bonnie aime les pieds de porc assaisonnés, les olives. Clyde raffole des frites, des petits pois anglais, avec beaucoup de crème et du poivre aussi. Mais ce simulacre de vie bien rangée va bientôt voler en éclats.
Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger,
de s'installer tranquille dans un meublé,
dans les trois jours, voilà le tac-tac-tac,
des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Bonnie and Clyde.
Ils ont essayé de se ranger.
Et de manger des pieds de porc. Ça,
mais après
beau.
13 jours passés dans cette petite maison du Missouri, le gang Barrow est de nouveau au cœur de la tourmente. Alors que Bonnie fait montre de ses talents de poétesse en rédigeant l'un de ses plus beaux textes tout en mangeant un œuf dur, que Blanche joue au solitaire et que les hommes travaillent dans le garage, une patrouille de 6 policiers encercle la maison. Très vite, une fusillade éclate. 2 policiers sont abattus et le gang prend la fuite. Mais dans la précipitation, Blanche oublie des effets très importants, dont un appareil photo. Dessus figurent les clichés devenus mythiques de Clyde et Bonnie jouant avec leurs armes, fumant un cigare et s'embrassant follement. Dès le lendemain, les journaux publient ces photos et font de Bonnie et Clyde des stars. Oui, ils sont de dangereux criminels, mais tellement attachants. Désormais, le mythe est né. Pendant plusieurs mois, dans leur fameuse Ford V8, le gang Barrow sillonne le Texas et les États voisins. Ils parcourent entre 500 et 1000 km par jour. Les disputes sont fréquentes et le couple Bonnie et Clyde n'y échappe pas. Des prises de bec qui laissent place à des moments de joie. Ils retrouvent ainsi dans le plus grand secret leur famille, en mai 1933. Rendez-vous est pris sur un pont à l'abri des regards, pour la fête des mères. Parfois, ils tombent dans des guet-apens, mais s'en sortent aisément. Comme ce jour où, après avoir tenté de dévaliser une épicerie, Clyde, poursuivi par le propriétaire, n'a d'autre choix que de sauter sur le pare-brise de la voiture en obligeant Bonnie à démarrer et partir à toute vitesse. Les deux tourtereaux se sont jurés de rester ensemble quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Le 10 juin 1933, ils sont miraculés d'un grave accident de voiture. Clyde a le nez cassé, mais Bonnie est bien plus touché. Sa jambe droite est brûlée, sa mâchoire ouverte jusqu'à l'os. Clyde n'hésite pas une seconde. Il va chercher la sœur de Bonnie pour qu'elle s'occupe d'elle et prend le risque de faire venir 2 médecins pour qu'ils la soignent. Malgré la menace d'être arrêté, l'amour pour Bonnie est trop fort. Mais le 23 mai 1934, alors qu'un mois plus tôt Clyde a abattu 2 policiers qui venaient les contrôler et pris la fuite avec Bonnie, leur cavale prend fin. Et leur vie aussi. Le couple de gangsters tombe dans une embuscade menée par un ancien ranger du Texas. Peut-être qu'un ex-compagnon d'infortune les aurait trahis en échange d'une remise de peine. Quoi qu'il en soit, leur voiture est criblée de plus de 130 balles et leur corps déchiqueté par 30 impacts. De nombreux badauds se réunissent autour de la voiture lorsqu'ils apprennent que Bonnie et Clyde ont été tués. Certains essayent même de récupérer des vêtements, des mèches de cheveux, des bijoux. 20 000 personnes seront là quelques jours plus tard pour assister à leur enterrement. Mais contrairement à leur volonté, Bonnie et Clyde ne seront pas enterrés l'un à côté de l'autre. Ils ont perdu et la mort a bien fini par les séparer.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Bonnie et Clyde, nous sommes avec le réalisateur Olivier Lambert qui est parti sur leur trace au Texas. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Bonjour Olivier Lambert, vous êtes producteur et réalisateur. Vous avez notamment écrit et réalisé Chasing Bonnie and Clyde, un documentaire tourné aux États-Unis sur les terres justement de Clyde et Bonnie. Lorsqu'on revient là-bas plus de 80 ans après leur mort, ils sont toujours présents.
Ouais, ils sont toujours présents, c'est ce qui est assez impressionnant. Le mythe survit, il y a un musée sur le lieu où ils ont été tués, il y a des tours qui sont organisées à Dallas, des visites Bonnie and Clyde pour aller sur les lieux de leur vie, de leurs frasques, et puis il y a des stèles qui sont là partout où ils ont tué des policiers ou des civils. Donc il y a vraiment la mémoire qui est en encore hyper présente. Et cette mémoire, elle est très moderne, puisque dans la presse, on nomme, on surnomme un peu tous les couples, les duos criminels, Bonnie and Clyde.
Mais pourquoi cette sympathie ? Moi, personnellement, j'arrive pas trop à la comprendre. Enfin, je veux dire, ils ont quand même tué des civils, des flics. Enfin, genre, il y a un moment, ils étaient beaux, donc leur plastique ne fait pas tout. Enfin,
C'est très lié à l'époque, en fait, parce qu'ils sont plutôt vus comme des Robin des Bois, finalement.
Mais ils étaient vraiment des Robin des Bois ?
En fait, c'est un couple qui est devenu mythique via ces photos, comme vous le disiez, Stéphane, qui tout d'un coup vont dans la presse locale, mais aussi nationale. Et ils sont vus comme deux jeunes tourtereaux, exactement. Et surtout, en fait, tout leur crime arrive juste après cette crise de 29, où la situation, l'ambiance est tout à fait catastrophique. C'est-à-dire que tout le monde essaye de survivre. Tout le monde vole. Tout le monde est dans une ambiance où il faut s'accrocher à ce qu'on a. Eux, ils ont cet amour, ils ont cette famille aussi qui les entoure et qui les soutient. Et au final, ils sont vus comme ces desperados qui tentent tout et qui tentent de fuir. C'est une fuite en avant. Et les morts qu'ils font sont, d'une certaine façon, des choses qu'ils n'avaient pas prévues. C'est-à-dire que tuer n'était pas, ne faisait pas partie
de leur
programme.
C'est pas volontaire, disons. Dans le titre, Chasing Bonnie and Clyde, il y a cette idée que le couple mythique nous échappe. Alors, est-ce qu'ils sont toujours aussi énigmatiques à vos yeux ou vous avez réussi à percer le mystère ?
Alors, pour nous, avec Thomas Salva, avec qui j'ai réalisé ce film, c'était vraiment une envie de retourner sur leurs traces, de voir à quel point le mythe, finalement, subsistait et existait encore. Donc, on s'est assez peu attaché à toutes les anecdotes autour de Bonnie and Clyde et tous les mystères qui planent, parce que la survivance de leur couple est tellement forte, leur amour, cette famille très très unie, et puis aussi le pied de nez finalement que Clyde fait à la justice texane, puisque 6 mois avant sa mort, il va libérer des anciens amis dans la prison d'Istam où lui a été incarcéré, où il a été violé, où il a subi finalement le pire qu'on peut vivre. Et il avait presque un discours politique, en fait, c'est-à-dire dénoncer la façon dont la justice américaine s'occupait des prisonniers ou ne s'occupait pas des prisonniers, mais en faisait des pires criminels, puisque lui, souvent, l'a expliqué à ses proches, c'était la meilleure prison, école du crime, c'est la prison.
C'est la prison. Oui. Est-ce que le FBI s'est servi un petit peu aussi de leur arrestation pour faire leur propre com, pour
exactement
c'était un couple star.
C'est vraiment l'époque, en fait, où Edgar Hoover crée le FBI. Et en fait, le FBI, à l'époque, n'a aucune légitimité. C'est-à-dire que toutes les polices sont locales. Ouais. Les États-Unis sont des États, disons, séparés. Donc, les polices du Texas ne communiquent pas avec les polices des États voisins, comme la Louisiane ou le Kansas. Et en fait, ça, Clyde Barrow, qui est un pilote qui adore conduire, l'a bien compris. Donc, tous leurs chemins sont le long des frontières de ces États. Et ils passent d'un État à un autre pour se protéger. Donc, Edgar Hoover, qui est dans cette période où la Grande Dépression a créé beaucoup de criminels, ils visent des public enemies, et finalement Clyde Barrow et Bonnie Parker, en plus d'avoir cette aura de couple glamour, devient l'ennemi public numéro un, et Edgar Hoover s'en sert pour faire un exemple pour le FBI. Ils seront les premiers à tomber et ils seront les premiers à confirmer que cette police inter-État finalement est quelque chose d'ultra pertinent et légitime, et donc à financer et à poursuivre dans les années suivantes.
Ce qui est fascinant, c'est le côté désintéressé de leurs crimes. Ils ne faisaient pas ça pas seulement pour de l'argent. Et au fond, il y a une certaine beauté. Enfin, c'est terrible à dire parce qu'on va encore se prendre des gens. On soutient le crime. Mais c'est vrai qu'il y avait. Il y a une beauté dans cette immoralité, en fait, de leurs crimes.
C'est vraiment lié à cette époque où tout le monde tente de survivre.
Même vous, Stéphane, à cette époque, vous auriez peut-être volé une poule, qui sait.
Oui, exactement. Mais je l'aurais fait pour vous, Mathieu.
Vous serez sacrifié, c'est beau.
Donc ouais, c'est lié à cette époque où tout le monde tente de survivre et où finalement, eux ont trouvé cette solution de s'enfuir en voiture, d'essayer de rester soudés, groupés. Et le crime, malheureusement, pour eux, est sur la route. Et par exemple, la tuerie de Grapevine qui arrive le 1er avril 1934, un mois avant leur mort, ils sont en train de dormir dans un bas-côté. Et tout d'un coup, il y a deux motards qui viennent intrigués par cette voiture, mais ne sachant pas du tout que ce sont Bonnie and Clyde. Et ils tombent sur eux. Et en fait, pour s'échapper, il faut tirer. Donc, ils sont malheureusement abattus.
Mais ce qui est fou, c'est que une formidable histoire d'amour, surtout. Je pense que ce qui nous touche encore aujourd'hui, c'est qu'ils s'aiment au-delà de leurs crimes, c'est que voilà, l'amour est plus fort que tout.
C'est ce qui fait partie du mythe, et Bonnie l'écrit parfaitement dans son poème à Joplin en 1933. Elle prédit finalement leur fin, mais c'est « we'll go down together », donc on va finalement mourir ensemble, et leur amour, c'est un très bel amour, puisque finalement, il y a très peu de relations charnelles, ils sont, enfin, il y a cette.
Quand savez-vous?
En tout cas, Stéphane aimerait qu'il y ait eu plus de relations charnelles que ça. En tout cas,
c'est ce qu'ils expliquent. Enfin, c'est ce que Bonnie écrit dans ses lettres, et notamment à sa sœur. Et c'est ce qu'il se raconte lors de ses rendez-vous familiaux, puisque tous les deux mois, il prenait beaucoup de risques, mais c'était important de se voir entre frères et sœurs, avec la mère de Clyde notamment. Et en fait, leur amour est vraiment un amour adolescent. C'est-à-dire que ils s'aiment profondément, ils veulent vivre ensemble et ils veulent mourir ensemble, et c'est ce qui leur est arrivé.
Alors, ils ont essayé de se ranger. C'est la partie la plus triste finalement, c'est qu'ils essayent de se ranger, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce qu'ils sont poursuivis quand même par la police, ou ils n'y arrivent pas parce qu'ils sont juste quand même entraînés dans une spirale. Ce mode de vie, ils savent pas vivre autrement. En fait, ils savent pas gagner leur vie différemment, donc ils sont obligés de repartir vers le.
En fait, ils sont à Joplin dans le Missouri. Ils ont trouvé une petite maison où ils peuvent reprendre un petit peu leur vie. Ils essayent, là, ils ont la volonté d'arrêter le crime. Donc, ils vont même faire des petits boulots pour gagner un petit peu d'argent. Mais un soir, en fait, la police vient les arrêter, pensant que ce sont des bouilleurs de cru qui sont en train de fabriquer du gin. Et en fait, encore une fois, cette menace fait qu'ils doivent se défendre et donc s'échapper. Mais à cette époque-là, les récits indiquent qu'ils avaient vraiment cette volonté d'arrêter.
Ils auraient pu finir petit retraité tranquille, faire des barbecues
exactement,
dans leur backyard.
Mais c'est vrai qu'ils ont des circonstances atténuantes aussi. Leurs origines, ce qu'ils ont vécu, on peut comprendre, disons. C'est peut-être ça aussi qui nous met mal à l'aise. C'est-à-dire que d'abord, ils sont des mythes aujourd'hui, et donc on les exonère des crimes qu'ils ont pu commettre.
C'est un peu, nous, tout ce qui nous intéressait dans le film qu'on a fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut excuser le crime? Est-ce qu'on peut trouver des circonstances atténuantes? Est-ce que peut offrir une seconde chance? Et en fait, typiquement, l'enfance de Clyde, qui a vécu une enfance très violente, son père était alcoolique, ensuite, quand il est emprisonné, il rencontre d'autres détenus qui sont très violents, qui le violent, donc il y a vraiment des traumatismes, en fait, qui font que il a une violence en lui qu'il doit exprimer. Et il ne peut plus qu'être un personnage violent. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on se pose la question, finalement. Là, est-ce que la prison, c'est pertinent? ou est-ce qu'il faut offrir un accompagnement pour éviter les violences ultérieures que la prison peut provoquer?
Et puis, il avait un frère aussi qui lui a enseigné ce qu'il ne savait pas sur le chemin du crime.
Buck, le grand frère de Clyde, est lui est vraiment une frappe, un petit malfrat qui, dès son enfance, adolescence, est vraiment repéré dans le quartier de West Dallas comme le caïd de la bande. Et son petit frère, Clyde, finalement, prend la suite, inspiré par son grand frère. Et c'est ça qui est intéressant de comprendre, c'est à quel point, un parcours de criminel, finalement, c'est rarement un choix. C'est souvent né suite à des traumatismes, à des chocs de l'enfance, de l'adolescence, et des gens qui vous montrent comment on fait. Encore une fois, la prison est souvent la meilleure école du crime. C'est là que vous rencontrez des gens qui ont plus d'expérience, qui ont fait des choses pires, et qui peuvent vous enseigner, en fait, à la sortie, à devenir un plus grand criminel que vous ne l'étiez à la rentrée. Et
qu'est-ce qu'ils sont devenus, justement, les proches de Bonnie et Clyde?
Donc, la plupart sont morts.
Ils sont tous morts.
Surtout aujourd'hui.
Non, mais ils ont des frères et sœurs qui ont vécu jusque dans les années 50. Le père de Clyde est mort dans les années 50, par exemple.
L'alcool, ça conserve.
Exactement, voilà. Et nous, on a pu rencontrer, par exemple, le neveu de Clyde Barrow, Buddy Barrow, qui, lui, vit toujours au Texas, dans sa ferme, et qui...
Il n'est pas gangster, lui.
Et lui n'est pas du tout gangster, au contraire, à la fois il soutient vraiment la police locale, par exemple. Il est convaincu.
Mais en même temps,
il
a fait un tour opérateur.
Et voilà, en même temps,
il a un musée.
Non, lui n'a pas de musée, mais disons qu'il participe à toutes les célébrations, on peut dire, autour de Bonnie and Clyde.
Enfin, c'est ambivalent, en fait, le souvenir de Bonnie and Clyde. Merci Olivier Lambert. Je rappelle donc votre documentaire Chasing Bonnie and Clyde, disponible sur toutes les plateformes de VOD, et le dernier sur un tout autre sujet. C'est une espèce à part que vous avez produit pour Arte, une série d'animations qui observe l'humanité à la loupe et replace l'homme dans un univers dont il n'a jamais été le centre. Et c'est à voir sur arte.tv.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle, elle nous raconte des histoires qu'elle découpe et colle dans ses petits carnets. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, c'est tellement bien fait parce que on parle de malfaiteurs que vous avez choisi de nous parler d'un bienfaiteur, Sir Richard Wallace. Et ça nous fait du bien à nous.
Bon, mais vous connaissez bien sûr, messieurs, les péripéties gastronomiques du siège de Paris par les Prussiens, là, les Parisiens qui mangent la saucisse de rat, du chat, et on va boulotter Castor et Pollux, les deux éléphants du Jardin des Plantes.
Potarama aux truffes à l'époque, Stéphane. Hein, la grande déception, Stéphane, c'est pas difficile.
Ça, la grande épicerie n'existait pas encore.
Bon, il n'y a plus rien à boulotter, ça tout le monde le sait. Oui. Mais ce qu'on sait moins, c'est que les Parisiens, pendant le siège de Paris, ont également été assoiffés parce que le canal de l'Ourcq, l'aqueduc de la Due était fermé et la ville ne disposait plus que deux sources d'approvisionnement en eau, la Seine, hein, et la Seine, c'est comme ça que tous les Parisiens ont chopé le choléra dans les années 1830.
On buvait l'eau de la Seine
directement. Et puis, on n'était pas capable de savoir que les gens avaient le choléra parce qu'ils buvaient l'eau de la Seine. Bon, c'est une autre histoire. Alors, en tout cas, on a manqué d'eau, on a eu soif et du coup la guerre passée, eh bien le riche mécène anglais Richard Wallace, sauf à la capitale française, 50 fontaines à boire, ces grosses fontaines, 610 kilos de fonte, il y en a plein à Paris, vous connaissez forcément, et le journal L'Illustration du 17 août 1872 relate l'inauguration de la première d'entre elles, elle se trouvait boulevard de la Villette dans le 19e arrondissement, et décrit les Parisiens enthousiastes qui viennent là avec un gobelet, prendre un gobelet d'eau, quoi, tout contents, se disant, ben, on a manqué d'eau, on voit. Voilà. Et donc, Paris comptera 57 fontaines Wallace en 1878 et près de 100 à la veille de 1900. Alors, qui était ce monsieur Richard Wallace? Bon, c'est un nom qui nous est quand même familier, mais largement grâce aux fontaines, bien sûr. Il était le fils naturel d'un lord anglais, Lord Seymour Hertford. Ça s'appelait Stéphane. Hein, je fais un effort pour vous, Stéphane. Quatrième marquis du même nom et d'une certaine Agnès Jackson, née Wallace et d'origine française. Bon. Et ce Richard, il hérite à la mort de son père en août 70, une fortune absolument colossale, quelques 60 millions de francs de l'époque, c'est énorme, accompagné de divers biens immobiliers en France, en Angleterre. Son père possédait notamment tout un immeuble rue Lafitte et le domaine de Bagatelle à Neuilly. Du coup, il a plein d'argent, que fait-il ce très brave homme? Et ben, à Paris, il fréquente beaucoup le milieu littéraire et artistique, il croise Baudelaire, Flaubert, Théophile Gautier, il a une vie plutôt agréable, c'est aussi un très grand amateur d'art. Et très souvent, dans des ventes aux enchères, il est opposé au duc de Morny, le demi-frère de Napoléon, que ça énerve un peu parce que l'autre a beaucoup d'argent et peut absolument tout rafler. Et Morny disait à son sujet, Sir Wallace avait une vaste fortune pour ne jamais s'en servir, de magnifiques maisons en Angleterre pour ne jamais y mettre les pieds et de très beaux tableaux pour ne jamais les voir. Il se contentait d'une bagatelle, référence donc à la propriété de Bagatelle, ainsi que je le disais à l'instant, qui appartenait à Richard Wallace. Alors, Richard Wallace, il aurait pu rentrer dans l'histoire pour toutes sortes de raisons. Pendant le siège de Paris, il aurait pu fuir la capitale, il a beaucoup d'argent, il peut retourner en Angleterre. Eh ben non, il reste à Paris. Il choisit vraiment délibérément. Hein. Il va fonder un hôpital à Neuilly, l'hôpital franco-britannique qui existe toujours. Il crée des ambulances militaires pour accueillir les blessés. Il distribue des vivres à la population. Tout ça sur sa fortune personnelle. À un moment, il y aura d'ailleurs un bombardement au Jardin des Plantes et tous les professeurs du Muséum d'Histoire Naturelle récupéreront des fleurs dans les ruines et viendront lui offrir ce bouquet qu'il gardera jusqu'à la fin de sa vie, les seules fleurs qui auront survécu au bombardement du Jardin des Plantes. Donc, vous voyez, il aurait pu, en somme, rentrer dans l'histoire pour toutes sortes de bonnes raisons, mais non, il est resté dans l'histoire pour ses fontaines. C'est comme Maurice et les colonnes Maurice, Guimard et les entrées de métro, voilà, c'est les fontaines. Alors, pas la peine d'aller boulevard de la Villette essayer de trouver la première.
Elle n'y est plus.
Elle n'y est plus, elle a été emboutie par un camion il y a une vingtaine d'années, elle est partie à la casse. En plus, elle était près de Stalingrad et elle servait de cache pour de la drogue, la première fontaine Wallace. Et vous savez que les carapaces, le dôme, c'est une carapace de tortue. Très, très souvent, ça a été volé. Alors que c'est de la fonte, c'est très lourd, mais des antiquaires dans le monde entier rêvent d'avoir une fontaine Wallace. Il y en a même une à Paris qui est en territoire étranger. Il y en a une que la ville de Paris a offert à l'Angleterre. Elle est bleue et elle est dans la cour de l'ambassade d'Angleterre rue Saint-Honoré. Bon, alors, en tout cas, lui, Richard Wallace, en remerciement pour sa noble attitude durant la guerre, il sera admis à l'unanimité au sein des deux grands cercles mondains les plus cotés, qui étaient l'Union fondée en 1828 par Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, pour réunir à Paris une élite française et étrangère, et puis il sera aussi admis au Jockey Club. Voilà, c'est le Jockey Club, l'objet social, c'est l'amélioration de la race chevaline. C'est un acte manqué, là aussi, j'ai voulu vous faire plaisir. Alors, il va avoir la croix de commandeur de la Légion d'honneur. Et en Angleterre, la reine Victoria l'anoblit et lui confère le titre de baronnet. Il a légué toute sa collection d'œuvres d'art que Stéphane connaît par cœur à l'État britannique. Ça, c'est quand même un peu dommage, admettez. Vous auriez voulu
qu'il le laisse à qui?
La France.
Oui.
Bah oui. Bon, il a tout laissé à l'Angleterre. En tout cas, quand il est mort, comme dit le Mexicain dans les Tontons Flingueurs, il y a qu'à Paname qu'on peut venir canner. Donc, il est mort dans sa propriété de Neuilly le 20 juillet 1890. Et il y a eu des dizaines de milliers de Parisiens qui sont venus accompagner son cortège funèbre. Il est enterré au Père Lachaise. Alors, il y a quand même un mystère qui reste. C'est que c'est lui, Richard Wallace, qui a dessiné les fontaines. Vous savez, les fontaines Wallace, il y a quatre grâces. Il y a quatre femmes qui soutiennent ce dôme. Or, en fait, il y a trois grâces. On parle toujours des trois grâces, Euphrosyne, Aglaé et Thalie.
Il y a sa femme, la quatrième.
Alors, ce n'est pas sa femme. Lui, ce qui l'a amusé, c'est de rajouter une femme en plus, une petite inconnue au bataillon, sous nos latitudes, qui est la muse de la sobriété. Alors, libre à chacun de voir derrière cette appellation la patte du grand bourgeois moraliste, ou alors, au contraire, un zeste d'humour typiquement britannique chez un homme qui avait compris et aimé le peuple français. Mais qui a quand même laissé sa collection de tableaux aux Anglais.
Ça, moi, n'en déplaise à Stéphane Bern.
Oui, mais enfin, bon, écoutez...
Elle était là-bas, sur place,
oui, d'autre part. Oui, elle est magnifique. Ouais. Il faut vraiment aller la voir.
Enfin, quand on pourra, voilà, Stéphane.
Et tout reviendra. Alors, merci beaucoup Clémentine. C'était passionnant.
Oui. Et Clémentine, surtout, vous ne bougez pas. Hein, le quiz qui vous oppose à Stéphane arrive. Et merci de ne pas fanfaronner d'avance, même si intérieurement, vous vous dites...
On va les trier.
Chut.
16h, 18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
De toute l'histoire de l'audiovisuel, c'est le seul jeu où, lassé de gagner continuellement contre un adversaire toujours à la ramasse, l'un des candidats vole à son secours pour tenter de réinstiller un peu de suspense, là où il n'y en a plus. Voilà pourquoi souvent vous entendez Clémentine s'écrier
« Réfléchissez Stéphane !»
Mais oui, réfléchissez Stéphane ! Jouons
je ne peux pas.
À Fern to be alive. Notre célèbre quiz. Question numéro 1, elle est pour vous, mon cher Stéphane. Partons outre-Atlantique. George Washington est le premier président des États-Unis à avoir connu le fax. Non, je déconne. George Washington est le premier président des États-Unis et c'est le seul qui ne sera pas investi à Washington. Vrai ou faux? Attention, il y a peut-être un piège, je dirais même plus. Attention, il y a sûrement un piège.
Oui, parce que oui, c'est pas possible.
Le seul à ne pas être investi à Washington.
La ville s'est appelée ainsi après sa mort.
Donc, quelle est votre réponse, Stéphane?
C'est très bon, ça. Où est-ce qu'il aurait pu être investi, justement? Pas à Cincinnati.
Je crains que ce soit la même ville, mais elle ne portait pas son nom.
Je vous en demande pas tant, Stéphane. Je vous demande de me dire si c'est vrai ou si c'est faux.
Plutôt à Boston, une ville ancienne, parce qu'en effet, Washington, la ville de Washington doit être une ville récente.
Elle existait, mais elle s'appelait autrement. Donc, non, il n'a pas pu être...
Donc c'est vrai.
Oui, c'est vrai. Ça peut pas être... La ville ne s'appelait pas Washington.
Vous avez gagné.
Grande vivacité d'esprit aujourd'hui pour Stéphane Bern. Oui, c'est vrai. Pour cause, Washington a été nommé en hommage à George Washington. Ce dernier a été investi à New York le 30 avril 1789. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine. C'est sur le papier le pouvoir aux soviets, mais aussi les usines aux ouvriers et la terre aux paysans. Ce qui ne l'empêchera pas de rouler en Rolls-Royce. Vrai ou faux?
Il roulait en Rolls-Royce. C'est possible parce que, après tout, les Anglais ont bien offert une Rolls-Royce à Clémenceau au lendemain de la guerre de 14 en remerciement. Après tout, les Russes étaient du côté des Alliés. Qu'on ait pu lui offrir une Rolls-Royce. Pendant, c'est plutôt des îles, mais ça devait pas exister encore en Union soviétique, les voitures officielles. Est-ce que Lénine a pu avoir une Rolls-Royce qu'un riche Anglais ait voulu saluer le nouveau pouvoir sur les décombres du tsarisme? Pourquoi pas? Sinon, la question n'aurait pas de sens. Je dirais oui.
Vous avez gagné!
Et oui, il s'emmerdait pas, Lénine. Hein. Il roulait en Rolls-Royce Silver Ghost, pour être précis. Vous connaissez bien ce modèle, Stéphane.
Oui, très bien.
Hein, oui, consomme
oui,
un peu,
que
mais...
J'ai, parce que par passion pour Lénine, évidemment. Il a dit... Ah oui, on partage tout.
Oui, hein, ouais, voilà. On partage tout. Alors, il l'a acheté en 1916 d'occasion. Enfin, elle était, il n'était pas propriétaire en son nom, mais au nom du président du Conseil des commissaires
c'est
du peuple.
C'est donc lui qui
c'est
l'a
lui
acheté.
Qui l'a acheté. Voilà,
ah,
c'est pas un cadeau.
Oui, ah, oui, c'est vrai. Voilà, oui.
Il l'a voulu. Il avait le goût, cet homme.
Et vous pouvez la voir encore aujourd'hui au musée d'histoire de Saint-Pétersbourg, où cette magnifique Rolls. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Le 24 mars 2011, vous y étiez peut-être, hein, c'était l'enterrement d'Elizabeth Taylor. Pour respecter la volonté de l'actrice, le cercueil de Richard Burton avait été ressorti pour l'occasion avec l'accord de sa famille. Vrai ou faux?
Pourquoi l'aurait-on ressorti? Il y avait peut-être de la place pour deux dans ce caveau, non?
Symboliquement.
On pourrait se faire sans que ça.
Non, je crois pas.
De la place.
Je peux me tromper.
Vous n'y étiez pas?
Non,
je n'étais pas convié.
Non, j'étais pas. Bah, vous savez, on n'invite jamais les gens pour les obsèques, hein. Bah, on les invite à un mariage.
Ah bah, à l'avance, maintenant, il n'y avait pas une liste qui est dressée. Non. Vous, quand vous partirez, Stéphane, le plus tard possible, vous ferez une liste de ceux que vous voulez voir et ceux que vous ne voulez pas voir.
Non, on s'en fiche. Ah, on s'en fiche. On est dans la boîte.
D'accord. Vous serez dans la boîte.
Non, écoutez, je ne crois pas. Je vois pas pourquoi, parce que et puis elle avait un nouveau mari, Larry Fortensky.
Oui, ça aurait été assez.
Et puis si on avait sorti les cercueils de tous ses maris.
Enfin, lui, elle l'a épousé deux fois, me semble-t-il.
Elle l'a épousé deux fois, voilà, Richard Burton. Oui. Et il lui a offert les plus beaux bijoux.
Un petit aller-retour.
Non, écoutez, je trouve ça un peu vulgaire et grotesque.
Vous avez gagné.
Pas de place pour la grossièreté dans la vie d'Elizabeth Taylor, même après la mort. C'est faux. Par contre, Elizabeth avait donné pour consigne à sa famille de commencer la cérémonie avec 15 minutes de retard, car elle avait l'habitude d'être toujours en retard.
Ah, ça, je
elle voulait
vous
que
ce
soit également le cas pour son dernier rendez-vous. Voilà. Elle était en retard de plus de 15 minutes, visiblement, d'après vous, Stéphane.
Pour les choses que j'avais à faire avec elle, elle
qu'est-ce
était
que
toujours...
vous aviez à faire avec Elizabeth
Taylor?
Non, j'ai
fait un voyage avec elle une fois. Nous sommes allés chez le roi de Thaïlande. Elle et moi.
Ramanov.
Ramanov,
il était aussi rock'n'roll que le fils
Bol Adoulyadej. Non, c'était un homme très respectable.
Lui, il était respectable.
Elle est arrivée en retard pour quand on a changé la robe du Bouddha d'Émeraude. Et c'était pas elle, le Bouddha d'Émeraude. Je dis... le dire. Et elle a été punie. Elle pensait qu'on allait l'attendre. Mais non, le Bhumibol, il ne l'a pas attendu.
Et il l'a punie comment?
Bah, rien, elle était là au dîner après. Avec son mari, j'ai connu son mari, Larry Fortensky, qui était chauffeur de poids lourd. Il avait de très jolies bottes.
Chauffeur de poids lourd,
c'est une poésie, c'est surréaliste.
Le dernier mari de
il était chauffeur de poids lourd. Mais comment un chauffeur de poids lourd rencontre Elizabeth Taylor?
Mais vous savez, je ne sais pas, elle ne m'a pas raconté son histoire. Mais elle avait un coiffeur qui était plus star qu'elle. Parce qu'elle était très gentille, comme ça. On pouvait discuter avec elle, mais il fallait passer par le coiffeur. Bien lui parler.
On apprend tellement de choses avec Stéphane Bern. C'est fou. Une question du quiz.
Et toute ma vie.
Mais tout ça n'était pas filmé. Ce voyage, en plus,
c'est
juste
dommage.
C'était pour
votre plaisir. C'était très télégénique, tout ça. Le Bouddha d'Émeraude, Isabelle Taylor, le conducteur de camion.
90.
Ah oui, bien sûr. C'était, ça remonte. Alors, question numéro 4 pour vous, Clémentine. Offrez-vous tant d'anecdotes palpitantes, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est le plus long? Le mur de Berlin quand il existait ou le mur qui a été construit par Donald Trump pendant son mandat?
Je dirais... Alors, sur quelle distance le mur au Mexique a-t-il été édifié?
Je crois que c'est une farce, le mur mexicain.
Il n'y a pas grand-chose, mais le mur de Berlin...
Il faisait le tour de la... De, quand même.
Non, il coupait la ville en deux, sur la taille de la ville, mais Berlin est une très grande ville qui doit faire quasiment... c'est Moscou qui fait une cinquantaine de kilomètres, mais Berlin, ça fait bien une trentaine de kilomètres. Est-ce que le mur de Donald Trump a été construit sur 30 kilomètres? Je pense que tout l'intérêt de la question, c'est de montrer que le mur de Berlin sur une simple ville était plus long que le mur ridicule qu'a voulu... Donc je pense que la logique, c'est de répondre que le plus long est le mur de Berlin.
Assistez, Stéphane, au raisonnement fascinant.
Oui, mais je vais avoir faux.
Non, non. Je vais voir. Je veux dire, quand on raisonne si bien, on ne peut pas avoir faux.
Non,
c'est pas
possible. En plus, je vous ai mis sur la voie.
Oui. Ah bah, tiens.
Stéphane, j'étais à Berlin en novembre 89. Donc, j'ai passé toutes mes vacances, jeune fille, chez des pasteurs en Allemagne de l'Est. Donc, je connais bien le mur de Berlin.
Lui, il était à Koh Samui. Et vous?
Vous allez voir le Bouddha d'Émeraude avec le roi. Moi, j'étais chez des pasteurs en pays communiste.
Ah bah, deux jeunesses différentes.
On n'a pas eu la même jeunesse du tout.
Oui, évidemment, mais on voit ce que.
On voit ce que ça a donné.
Ah ouais, on voit ce en que ça cas, donne.
Non, mais c'est vrai que le mur de Berlin.
Alors écoutez, parce que si vous voulez des chiffres, vous pouvez continuer à gloser. Mais voilà, les chiffres. Le mur de Berlin faisait 155 km et Trump a construit 8 km de mur.
Ah, c'est pas vrai.
Alors, selon lui, selon Trump, si vous l'écoutez, il en a construit 727 km, mais c'était à des endroits où le mur existait déjà. Il l'a juste consolidé. La grande majorité du mur a été édifié par Bush, Clinton et même Obama. Au passage, sachez que Steve Bannon, le conseiller de Trump, est inculpé de détournement de fonds pour avoir eu des dépenses personnelles sur de l'argent qui devait aller à la construction du mur. Il aura tout fait, lui.
Il s'est pris un mur.
Il s'est pris le mur. Question numéro 5. Attention, elle va vous départager parce que vous êtes à égalité.
C'est ce que vous aimez. On vous sent frétillant.
On a bien répondu à aucune question, bien, là, Stéphane.
J'adore quand tout se joue comme ça sur une seule question. Ouais. C'est vraiment excitant. Alors, le premier qui choisit la réponse empêche l'autre de la prendre. Vous connaissez les règles, je ne vous les rappelle pas. Le tout, c'est d'écouter les trois propositions. Alphonse Ier est le premier roi du Portugal. Au XIIe siècle, on a bâti le monastère de Santa Maria d'Alcobaça, une splendeur de l'art gothique cistercien. Et je trouve que dans Historiquement Vôtre, on ne parle pas assez d'art gothique cistercien. Ce monastère, il a une petite particularité. Laquelle ? Trois propositions. Il y a une porte étroite. Si on n'arrivait pas à y passer, on était privé de nourriture. Il y avait une pièce avec une croix où l'on attachait les moines qui pêchaient et qui devaient rendre grâce à l'apôtre Saint-André. Il y avait un puits aux langues. Personne ne devait parler dans certaines pièces. Ceux qui bravaient l'interdit se la faisaient couper et devaient la jeter dans le puits.
C'est là, hein ? Il y avait une porte étroite pour empêcher les moines de trop manger.
Il y a plus de rapidité de ce côté-là. Clémentine Porticaldeba qui remporte ce quiz. Merci. Il y avait une porte assez étroite. Si on n'arrivait pas à passer, on était privé de nourriture jusqu'à ce qu'on y arrive. C'est génial. C'est une super idée.
Je devrais faire ça dans mon appartement. Mais...
la porte s'appelle Pega Gordo, et à savoir attrape gros. Elle existe toujours. Elle fait 32 cm de large. Voyons voir, est-ce qu'on passe, nous, Stéphane ?
Même si, si, passerait pas là-dedans, oui.
32 cm de large, c'est 32.
C'est beau, Alcobaça.
C'est 33.
Oui. Mais voilà, évidemment, vous vous nous interrogez sur
Inès
la porte au gros. Alors que voilà, il y a une histoire d'amour sublime.
Dont Pedro Inès de Castro, la reine morte. Monterland.
Mais comment ça, la reine morte?
Mais son l'homme qui l'aimait l'a déterrée, parce qu'elle l'a déterrée, elle a été assassinée. Oui. Il l'a déterrée, il a obligé tous les grands du Portugal
de venir lui béger un chemin, de lui baiser la main. Et alors qu'elle était morte, il l'a assise
morte
sur un
et
trône.
Décomposée.
Et décomposée. Il a obligé tous les grands à venir baiser la main de cette.
Non, c'est une magnifique histoire. La reine morte.
C'est magnifique, mais on n'aurait pas aimé être celui qui devait baiser la main quand même, hein.
Oui, mais il fallait pas l'assassiner, tout
voilà,
ça, parce qu'elle était.
C'est un prêté pour un rendu.
Elle était d'une naissance un peu moins importante que Dom Pedro du Portugal.
Non, jetez plus. Je veux entendre l'histoire intégrale de la reine morte bientôt dans Historiquement Vôtre.
Mais relisez Monterland aussi, hein.
Oui, bah, voire même lisez-le tout court avant de le relire.
<rire> 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement Vôtre.
Vous écoutez Historiquement Vôtre. Mathieu, c'est toujours un bonheur de passer l'après-midi avec vous et ces personnages historiques ou en couleur qu'on réunit en exclusivité pour Europe 1.
Oui, Stéphane, ils n'auraient jamais pu se croiser car ils ne vivaient pas à la même époque. Et pourtant, ils sont là, réunis autour d'un point commun. Aujourd'hui, on s'intéresse au couple de malfaiteurs célèbres de l'histoire. Qui ont aussi le point commun, un jour, de s'être fait choper, contrairement à Stéphane Bern, dont le grand public pense toujours que l'argent de la loterie du patrimoine va vraiment au patrimoine.
Ah non.
Alors que, comme me le disait Stéphane durant la coupure pub...
Me voilà maintenant avec deux châteaux, oui, 70 000 livres de rente...
Oui, bref, le couple, eux, se sont fait pincer, Stéphane.
Après n'importe quoi, après Bonnie and Clyde, je vais vous parler, Mathieu, d'un couple absolument monstrueux qui trucidait des femmes qu'il recrutait via les petites annonces. Leur nom ? Raymond Fernandez et Martha Beck. De votre côté, vous nous parlerez de malfaiteurs moins monstrueux, mais aussi beaucoup plus malins.
Ah oui, Wolfgang et Hélène Beltracchi, un faussaire de génie et sa complice qui ont fait vaciller tout le marché de l'art dans les années 90. Ils ne copiaient pas des toiles de Matisse ou Kandinsky, ils en inventaient de nouvelles. Seule la signature était donc un faux. Comment ont-ils réussi à duper leur monde durant plus de 20 ans ? J'ai enquêté.
Sans oublier nos célèbres chroniqueurs qui sont ici, notamment David Cassel-Lopez qui nous raconte les origines d'un objet, d'une invention, d'une mode.
Tout à fait, là c'est les bornes pour noter les choses de la vraie vie. Vous savez, vous allez aux toilettes dans les aéroports, hop, vous dites, est-ce que vous avez apprécié votre expérience aux toilettes ? Oui, non, et voilà. Et ça maintenant, il y en a partout dans les magasins, dans les aéroports, d'où ça vient ? Ben, J'ai enquêté.
Il y a un monsieur qui a inventé ça.
Il y a un monsieur qui a inventé ça. Là, c'est vraiment...
Vous avez son nom.
J'ai son nom. Je l'ai même.
Est-ce qu'on pourra noter votre chronique après ou
est-ce
pas
que vous allez apporter les boutons oui non pour qu'à la fin on.
Ah bah ça, c'est les internautes sur Internet.
Les internautes qui cliquent.
Exactement.
Alors les internautes adorent sa chronique parce qu'elle nous met en appétit, Stéphane. Évidemment, chaque jour l'histoire d'une recette, Olivier, aujourd'hui.
Oui, puis je suis très touché aujourd'hui parce que vous êtes habillé en fonction.
Oui,
vous voulez rendre hommage.
Mais
au mauvais
tarama. Je suis en rose. Je suis en rose, mais c'est du mauvais tarama.
Et je vous dirai pourquoi d'ailleurs.
Plus c'est rose, comme le jambon. Plus c'est rose, moins c'est bon.
Ouais, et ben, je vous dirais d'ailleurs pourquoi il y a une mode du tarama rose, alors que sa couleur d'origine, elle est plutôt claire, même très claire, elle est beige. Et puis, je vous donnerai une recette aussi pour le faire vous-même désormais. Et vous allez voir que
on
c'est
peut faire du tarama,
mais
soi-même.
Bien sûr, c'est très très facile.
Le mot de la fin. Il reviendra évidemment à Stéphane Bern qui nous parlera aujourd'hui. Alors aujourd'hui, Stéphane, vous prenez quelques libertés avec le concept
oui,
de
parce
cette
que vous
chronique.
Savez,
c'est pas l'histoire d'une expression.
Non, nous sommes des défenseurs des animaux ici. Et bien. D'où vient la dinde, le renard, le kangourou ? Ce n'est pas une fable de La Fontaine inédite, non. On va se demander d'où viennent leurs noms.
On va faire le nom de tous les animaux ?
Tous les animaux de la
D'accord.
ferme, et d'ailleurs. Et on va se demander d'où ça vient. Le kangourou.
Le kangourou, c'est...
Pourquoi le kangourou s'appelle le kangourou ?
Ah, non, mais la dinde, je sais, par contre.
Ne le dites pas, vous le saurez en fin d'émission. Tout de suite, Stéphane, plongeons dans l'horreur. Chose qui, je le sais, vous réjouit quand on touche à ce que l'âme humaine produit de plus vil. Découvrons la funeste histoire de deux losers de haut vol, sans foi ni loi, Martha Beck et Raymond Fernandez, les tueurs aux petites annonces.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Certains couples, même s'ils sont criminels, fascinent. C'est le cas, on l'a vu, de Bonnie Parker et Clyde Barrow. D'autres, au contraire, dégoûtent. Surnommés « The Lonely Heart Killers », traduisaient les tueurs des petites annonces, Stéphane Bern nous raconte les terrifiants Raymond Fernandez et Martha Beck.
Raymond Fernandez et Martha Beck, ce couple sanguinaire, revendiquaient 20 assassinats de femmes, mais un seul meurtre les a conduits sur la chaise électrique. Pourtant, tout avait commencé comme une simple histoire d'amour à l'eau de rose. Mais leur amour, si louable soit-il, ne permet évidemment pas d'excuser les atrocités qu'ils ont commises. En 1947, Martha Beck, 27 ans, une infirmière en surpoids et déjà mère célibataire de deux enfants, tente le tout pour le tout. Elle passe une annonce dans un magazine pour trouver l'amour. Elle, qui a été toute sa vie abandonnée par la gente masculine, y croit. Il doit bien exister aux États-Unis un homme prêt à l'aimer telle qu'elle est. Bingo. Un certain Raymond Fernandez, 33 ans, homme d'affaires au train de vie aisé, lui répond. Martha est aux anges. S'engage alors une relation épistolaire. Dans la foulée, Raymond pose même ses valises en Floride pour la rencontrer. La jeune femme tombe immédiatement amoureuse. Pour Raymond, en revanche, ce n'est pas tout à fait réciproque, car le belâtre d'origine espagnole est en réalité un arnaqueur professionnel. Depuis quelque temps, il profite de la détresse et de la crédulité de femmes seules pour leur soutirer de l'argent. Une activité évidemment illégale, mais à laquelle il n'était absolument pas destiné. Avant d'arriver aux États-Unis, Raymond Fernandez aurait travaillé au service des renseignements britanniques. Marié, père d'un enfant, il aurait vécu en Espagne avec sa famille et serait parti pendant la Seconde Guerre mondiale. Son but, tenter d'offrir à ses proches restés en Europe une vie meilleure. Mais la traversée vers le pays de l'oncle Sam tourne au cauchemar. Sur le bateau, une plaque de métal se décroche et lui transperce le crâne. Arrivé à New York, il reste plusieurs mois à l'hôpital. Dans l'accident, le lobe frontal a été touché. Le tempérament de Raymond en est définitivement perturbé. Colères inexplicables, changements soudains d'humeur, ce n'est plus le même homme. Quelque temps après sa sortie de l'hôpital, il est emprisonné pour avoir commis des vols. Son co-détenu, amateur de magie noire, l'initie entre autres au vaudou. À sa sortie de prison, un an plus tard, Raymond en est certain. Il a acquis suffisamment de connaissances pour rendre folle amoureuse de lui toute femme sur laquelle il jettera son dévolu. Son objectif est simple, identifier des proies riches et fragiles et les déposséder habilement de leur fortune. L'une de ses premières victimes accepte même de payer l'intégralité d'un voyage en Espagne. Hôtel, restaurant, Raymond Fernandez et sa compagne du moment mènent grand train. Mais en novembre 1947, cette généreuse américaine est retrouvée morte dans son hôtel. Raymond rentre à New York. Il hérite comme par magie de son appartement. Raymond Fernandez veut battre le fer tant qu'il est chaud. C'est ainsi qu'il répond à cette fameuse annonce de Martha Beck, un mois plus tard. Mais lorsqu'il rencontre l'infirmière en Floride, le bourreau des cœurs déchante. Elle n'est pas aussi fortunée qu'il se l'imaginait et elle élève seule ses deux enfants. Il préfère repartir à New York. Martha n'a pas dit son dernier mot. Elle a été battue par sa mère dans sa jeunesse. Elle souffre de son poids, avoisinant les 140 kilos. Elle ne veut pas laisser passer sa chance de refaire sa vie avec un homme aimant. Raymond accepte de la revoir. En janvier 1948, Martha débarque dans la Big Apple, pleine d'espoir et ses deux enfants sous le bras. Paris réussit, Raymond est séduit. Mais il émet une condition à la relation, que Martha se sépare de ses rejetons. Prête à tout pour conquérir cet homme, la jeune femme n'hésite pas et aurait confié ses enfants à l'armée du salut.
Charmante.
Raymond est impressionné par cette marque d'amour. Il lui révèle alors son activité secrète d'arnaqueur. Martha est loin d'être horrifiée, bien au contraire. Elle propose de prendre part activement à la petite entreprise lucrative de son nouveau compagnon. Officiellement, elle sera la sœur de Raymond, ce qui permettra de rassurer les femmes célibataires. Leur première victime s'appelle Janet Fay. Elle a 66 ans, elle est croyante. Raymond, qui signe Charles Martin dans ses lettres, sait trouver les mots qu'il faut pour susciter la sympathie. Il lui rend visite, son charme fait effet, et elle accepte de venir habiter avec lui et sa supposée sœur à Long Island. Elle retire les 6 000 $ d'économie mis soigneusement de côté toute sa vie. Martha est follement amoureuse de Raymond, peut-être trop. Elle devient très vite une femme extrêmement possessive. Dans le pacte qu'ils ont conclu ensemble, elle a été claire. Il peut se marier avec ses victimes pour mieux les amadouer, mais il ne doit en aucun cas consommer ses unions. Pourtant, un jour, Martha découvre Janet Fay au lit avec Raymond.
Celle qui a 66 ans ?
Oui. Cette vision lui est insoutenable. Elle entre dans une colère noire. Elle assène de violents coups de marteau sur la tête de sa rivale. Raymond aurait abrégé ses souffrances en l'étranglant. Il récupère ainsi les 6 000 $ et enterre le cadavre dans une maison qu'ils ont louée pour l'occasion. Le couple meurtrier ne semble avoir aucune limite. À peine la sexagénaire encimentée, Raymond et Martha jettent leur dévolu sur Delphine Downing, une jeune veuve de 41 ans qui s'occupe désormais seule de sa petite fille de 2 ans. Profitant de sa détresse psychologique, il s'installe chez elle. La rumeur raconte que Delphine, censée épouser le séduisant Raymond, découvre un jour dans la salle de bain le postiche que son prétendant utilise pour cacher sa calvitie, mais aussi et surtout sa cicatrice due à l'accident sur le bateau. Delphine aurait paniqué face à ce mensonge. Pour la calmer, le couple lui aurait donné des somnifères avant de l'abattre d'un tir de revolver. Martha aurait étranglé puis noyé sa fille dans la baignoire avant de les enterrer dans la cave de la maison. Mais les policiers, alertés par les voisins de l'absence inhabituelle de bruit, arrivent avant que le ciment ne durcisse. Ils font alors la macabre découverte des corps. Martha et Raymond sont arrêtés le 28 février 1949. À l'issue d'un procès de 44 jours et malgré leur tentative de plaider la folie, les deux amants sont condamnés à mort pour le meurtre de Janet Fay, leur première victime. Car si Raymond Fernandez et Martha Beck n'ont pas hésité à avouer 20 meurtres dans le Michigan, c'est parce qu'ils pensaient être épargnés de la peine de mort dans un État, le premier, qu'il a aboli en 1846. Mais ils ont volontairement été extradés et traduits devant la Cour de justice de New York pour le meurtre de leur première victime, Janet Fay. Et l'État de New York n'avait pas encore aboli la peine capitale à cette époque. Ils ont donc été électrocutés le 8 avril 1951 à 36 et 31 ans. Ultime coup d'éclat juste avant cela, Martha se jette sur Raymond qu'elle embrasse fougueusement. Dans une lettre, il déclara au sujet de sa chère et tendre « Qu'importe qui est à blâmer. Mon histoire est une histoire d'amour, mais ceux qui sont torturés d'amour peuvent comprendre ce que je veux dire. Dans l'histoire du monde, combien de crimes ont été attribués à l'amour ?»
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler des sympathiques Raymond Fernandez et Martha Beck, nous sommes avec le réalisateur et scénariste Fabrice Duvels. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Fabrice Duvels, vous êtes réalisateur et scénariste. Vous avez réalisé Alléluia, un film d'amour aussi fou que macabre, inspiré de l'histoire de Raymond Fernandez et Martha Beck, avec dans les rôles titres Laurent Lucas et la magnétique Lola Dueñas. On écoute d'ailleurs un extrait.
Tu sais, j'ai pas vraiment de magasin de chaussures. Je séduis des femmes.
Yes. Yes.
Tu devrais rentrer chez toi, Gloria.
Je vais rester avec toi. Tu continueras à faire ce que tu fais.
Et moi, je t'assisterai. Être avec toi. Vivre pour toi.
Oui. Oui.
Alors, Fabrice Duvel, qu'est-ce qui vous a interpellé chez ce couple et comment est née l'idée de votre film ?
Ah voilà, c'est une longue histoire, hein, mais je vais vous faire la version courte. D'abord, j'ai adoré votre manière de raconter l'histoire. Vous mettez de la bonne humeur dans une histoire qui est complètement insensée.
Oui, il y en a pas beaucoup, oui.
C'est vraiment formidable. Et puis, je pense pas que ce soit des gens absolument horribles, c'est-à-dire qu'ils ont une part, effectivement, de ténèbres, d'ombre, et ils sont absolument machiavéliques, mais en fait, ils ont une forme de pureté, même de... En fait, c'est ce que les psychiatres appelaient la folie à deux. Mmh. Donc, il y a des déséquilibres qui s'installent. C'est sûr qu'il y a un rapport de dominant à soumis, mais ce rapport s'inverse très, très vite. Et je pense que Martha Beck prend l'ascendant sur lui à un moment donné. Martha Beck, c'est un dragon. Elle fait la petite fille soumise au début, mais à un moment donné, elle le possède, cet homme. Elle le possède complètement. Il y a une espèce de pacte diabolique entre eux. Mais je pense que pourquoi cette histoire nous concerne autant et nous touche autant, parce que ça fait quand même beaucoup d'adaptations, il y a eu beaucoup d'écrits, il y a eu des séries télé, il y a eu énormément de choses autour de ce couple, c'est que quelque part, on s'y retrouve tous. Alors, peut-être pas dans cette extrémité-là, mais il y a quelque chose qui résonne en nous. Il y a quelque chose de vraiment fascinant, de hors limite, de hors contrôle de tout. Et c'est l'abysse, quoi. C'est l'abysse amoureux. C'est ça qui est fascinant dans ce fait divers. Ouais.
Bon, en même temps, il avait un pétocasque. Enfin, je veux dire, il avait...
Ah, sérieux, ouais.
Il y a le morceau de métal qui lui était tombé sur le crâne. Et c'est vrai qu'il était plus dans son état... Enfin, il a basculé, en fait. Mais c'est vrai qu'à deux...
On bascule encore plus facilement
parce qu'on est dans une... Il y a une force d'entraînement, j'imagine.
Oui, je pense que c'est probablement le cas. Effectivement, quand il prend le mât, ou je ne sais pas ce qu'il a pris exactement sur la tête dans le bateau, sa personnalité est complètement altérée. Mais en même temps, il avait déjà probablement tué avant. Bon, ça ne s'est pas prouvé, mais la combinaison avec Martha Beck, en fait, c'est ça. C'est que souvent, les histoires d'amour, c'est de la chimie. C'est d'abord des odeurs. Cette combinaison-là devient absolument meurtrière. Et je pense que ça arrive beaucoup plus souvent qu'on pense. Peut-être pas dans ces extrémités-là, mais il y a des couples quand même qui sont quand même bien barrés à deux, quoi. Enfin, et là, c'est quand même. Et je pense qu'il y a un appétit aussi. Il y a une jouissance à faire ce qu'ils font. Il y a quelque chose de truculent, de grotesque. Ils s'en amusent, ils rient, ils sont féroces, quoi. Ils sont monstrueux. Ils sont monstrueux enfantins. En fait, c'est très paradoxal tout ça. C'est ça qui est encore une fois complètement fascinant. Mais je crois que les juger comme ça de manière péremptoire, ce serait dommage. Et même dans la conclusion de leur histoire, la chaise électrique, Martha Beck qui est grosse, qui n'arrive pas à rentrer dans la chaise électrique tellement elle est grosse, ça déborde de partout, elle crie son amour pour Raymond Fernandez, ça dure des plombes, on a du mal à l'achever, enfin c'est complètement fou, hein. C'est vraiment une histoire jusqu'au bout.
Justement, c'est vrai qu'à l'époque, j'ai lu qu'à l'époque des médias, pendant le procès, on se moquait du physique de Martha, on faisait des paris même sur son poids exact. Vous avez choisi, dans votre film, de mettre moins... Elle n'est pas en surpoids, votre héroïne.
Non, vous comprenez bien, Stéphane, que ça ne m'intéressait pas vraiment de montrer, de stigmatiser une femme.
Non, je comprends, mais ça a joué un rôle important, dans sa psychologie et dans l'histoire.
Oui, mais encore une fois, moi, je me suis vraiment... J'ai beaucoup d'amour pour le film de Castle, donc le premier film de Honeymoon Killer, qui est un film des années, des années 60, qui aurait dû être le premier film de Scorsese, qui a été réalisé par Castle. Et puis, il y a eu Ripstein qui en a fait une adaptation dans les années 90, produit par Carmine.
Carmine Profond,
qui est un film incroyable. C'est-à-dire que Ripstein prend le fait divers et l'adapte à son Mexique natal. Moi, ce que j'ai fait modestement, c'est reprendre le fait divers et l'adapter à mes Ardennes belges. Donc, mais en même temps, je me suis éloigné pas mal du fait divers. Ce qui m'intéressait surtout, c'est la pathologie, c'est la folie à deux, c'est cette combinaison, c'est cette histoire d'amour fou, pathologiquement fou, qui avale tout, qui dévore tout, quoi, dans une espèce de jusqu'au boutisme romantique. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéressait beaucoup, c'est qu'il y avait une dimension vraiment purement et profondément romantique, mais à la Novalis, au romantisme du 19e, quoi. C'est ça qui me paraissait vraiment très, très fascinant à creuser et à explorer.
En tout cas, on le sent, et c'est vrai qu'il y a une certaine empathie avec les personnages. Enfin, de toute façon, j'imagine, on essaie de les comprendre à travers un film ou un livre pour essayer de percer le mystère de leur psychologie, ce que vous faites formidablement bien. Raymond Fernandez et Martha Beck, c'est vrai que c'est une histoire de passion et de crimes inexorables. Ça tombe bien parce qu'inexorable, c'est aussi le titre de votre prochain film, n'est-ce pas?
Oui.
Dans lequel vous réunissez, alors vous avez un beau casting.
Ah hein, oui, dis donc.
Benoît Poulvorde, Mélanie Doutet, Alba Gaïa Belloughi, enfin on reste... Et on reste dans le thriller, non?
Oui, oui, voilà, c'est toujours une histoire de passion, de folie, jusqu'au boutiste et dans un cadre qui est probablement beaucoup plus resserré, donc c'est un vrai thriller, c'est presque un huis clos et ça presque une... Enfin, je dis ça encore une fois comme référent, hein, mais comme j'aime beaucoup, beaucoup Chabrol, là, il y a vraiment quelque chose qui est peut-être un peu plus chabrolien dans sa construction, dans sa narration, en tout cas.
Et j'espère que Benoît Poulvorde ne tue pas trop de monde dans ce film.
Non, Benoît Poulvorde est la victime ici. Benoît est absolument incroyable dans le film, je vous assure qu'il est absolument tourmenté et épidermique. Oui. Voilà, il est formidable.
Bon, on a hâte que de pouvoir retourner au cinéma pour voir le
film. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr qu'on a tous hâte de retourner au cinéma. Il serait grand temps que ça s'arrête, ces conneries.
Ah oui,
absolument. Ah voilà, un bon résumé de la situation. Oui, c'est vrai, vous avez raison.
Merci beaucoup. En attendant, on peut donc revoir en VOD le film Alléluia, dans lequel vous redonnez vie quelque part à Raymond Fernandez et Martha Beck. Merci beaucoup, Fabrice Duvel.
Merci beaucoup.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement Vôtre, on évoque les couples de faussaires les plus étonnants de l'histoire. Après les vrais Bonnie and Clyde, vous nous brossez, Mathieu, le portrait, bon à 99% vrai, des Bonnie and Clyde de l'art.
Oui, on peut dire comme ça, Stéphane. Ils sont encore aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi, le cauchemar des collectionneurs d'art. Ils sont allemands, mais leur nom évoque plutôt la mafia sicilienne. Je vous présente les Beltracchi. Alors, des couples de criminels fascinants, Dieu sait qu'on en a connu, Bonnie and Clyde, Monique Olivier et Michel Fourniret, David et Jonathan. Des arnaques bien ficelées, on en a connu aussi.
Grâce à Charles Pasqua.
Bon, entre autres, David, mais ne faisons pas de politique ici. Plus près de nous encore, vivant et même libre, on rappelle l'histoire terrible hein, du faussaire d'étiquettes, le Spaggiari du Pinard, comme on le surnommait en Belgique.
Moi, je changeais les prix sur les bouteilles de vin. Mais non, on peut plus, avec les codes-barres, on peut plus.
Oui, le monde est peuplé de crapules. Mais ces deux-là, dont je vais parler maintenant, ont un côté sympathique. Car les Beltracchi sont à l'origine d'un des plus grands scandales artistiques de tous les temps, on va dire ex aequo avec la reprise de Hello de Lionel Richie par Mireille Mathieu.
Chaque matin, je t'aime un peu plus fort.
Qui, elle aussi, on en a moins parlé, est quand même un sacré scandale.
Ah bon?
Oui, Stéphane, je vous en informe. Bah non, on t'écoute plus, Mireille. Point trop d'infos, hein, Stéphane.
Je sais que vous l'avez téléchargé et que vous l'écoutez en boucle.
Elle est dans mes favoris. Wolfgang et sa femme Hélène seront arrêtés en 2010 à Fribourg, accusés d'avoir contrefait 36 tableaux de maître, ensuite écoulés pour la coquette somme de 45 millions de dollars. En 2011, elle a été condamnée à 6 ans de prison. Lui, il a été condamné à 6 ans de prison, pardon, et sa femme, elle, à 4 ans. Mireille Mathieu est à ce jour toujours en liberté.
Heureusement.
Et forcément, vous vous en doutez, pour duper ainsi tout le monde de l'art pendant près de 20 ans, il faut, quoi qu'on en dise, un certain talent. Celui de Wolfgang et Hélène, eh bien, s'immerger dans l'histoire de l'art dont ils sont spécialistes pour repérer dans l'œuvre d'un peintre une période où il aurait pu peindre un tableau qu'il n'a pas peint. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? C'est-à-dire que leur coup de génie a été de ne jamais contrefaire une œuvre existante, mais de créer totalement de nouveaux tableaux à la manière de tel ou tel peintre célèbre. Parmi leurs artistes fétiches, on citera Campendonk, André Derain ou encore Fernand Léger et surtout leur chouchou, Max Ernst, que vous connaissez peut-être.
Oui, j'en ai deux.
Oui, enfin, vous croyez en avoir deux, Stéphane, écoutez la suite. Le procédé de nos escrocs est le suivant. Wolfgang, qui a donc un don inouï pour choper le style d'un peintre, exécute une toile en respectant évidemment les matériaux de l'époque, le bois du châssis, les pigments. Puis il contrefait les étiquettes et les tampons pour parfaire le subterfuge. Hélène se charge de créer de fausses photos d'époque en noir et blanc, se faisant passer elle-même pour sa grand-mère, posant devant les tableaux appartenant soi-disant à sa famille. Reste à trouver le pigeon.
Coucou, me voilà.
Franchement, j'ai eu de la peine pour vous, Stéphane. J'ai eu de la peine pour vous. J'étais si content de me montrer ce miro que vous veniez d'acquérir en détournant un pourcentage infime des billets de la loterie Mission Patrimoine.
Oh non,
ça s'était passé totalement inaperçu. Vous avez pu vous faire plaisir chez Christie's pour agrémenter une demeure certes déjà bien fournie en œuvre du 18e, mais encore un peu dépourvue en matière d'art moderne. C'est ballot, mais vous n'êtes pas le seul à être tombé dans le panneau. En cause déjà le talent de Wolfgang. Baigné dans l'art dès sa naissance, son père est un peintre restaurateur de tableaux qui, en parallèle, peint des copies un peu cheap de Rembrandt. Le petit Wolfgang manifeste très tôt des dispositions qui épatent son paternel. À seulement 14 ans, il peint un Picasso en une journée. Et déjà, ce ne sont pas des copies mais des créations originales. À 17 ans, il s'inscrit aux Beaux-Arts, mais il s'y ennuie prodigieusement car trop en avance sur les autres élèves. Un de ses profs affirme même que ce n'est pas lui qui peint ses tableaux qu'il rend en cours. C'est trop beau pour être le travail d'un élève de première année, déclare ce prof. Un peu écœuré, Wolfgang commence à sécher les cours, s'achète une une Harley et rejoint le mouvement hippie en plein essor à l'époque. Or, vous connaissez les hippies, Stéphane.
Ils ne se lavent pas et tout ça se ressent.
Non, mais surtout, ils sont imprévisibles, subversifs et ils aiment s'attaquer à l'ordre établi. Ce qui explique peut-être que Wolfgang ne se soit pas senti glisser dans l'illégalité. Au début d'ailleurs, il signe ses tableaux de son nom. Il s'inspire des modernistes français, puis des expressionnistes allemands. Certaines de ses toiles partent à 11 000 Deutsche Mark, soit plus de 5 000 euros. C'est déjà pas mal. Mais Wolfgang sent qu'en termes de thunes, il peut faire mieux. Et sa carrière criminelle décolle vraiment lorsqu'il rencontre Hélène en 92. C'est une marchande d'art occasionnelle qui va lui offrir le storytelling qui manque encore à ses tableaux. Il a 42 ans, elle 33. En quelques jours, il lui révèle qu'il est un faussaire. Il raconte qu'il n'a jamais eu peur qu'elle aille le dénoncer à la police. Dès la première minute, j'ai vu mon futur à ses côtés. Évidemment, nos joyeux faussaires jouent avec le feu. Après les premiers soupçons qui arrivent en 98, une enquête ayant été ouverte en Allemagne, les Beltraki partent se faire un peu oublier dans le sud de la France où ils achètent un joli domaine. Ils peuvent. Mais voilà, la tentation est trop forte. Le marché de l'art est en plein essor, les prix s'envolent. Wolfgang reprend les pinceaux et comme Hélène est très respectée chez Christie's, elle n'a aucun mal à écouler 4 ou 5 tableaux par an, ce qui, vu le prix des tableaux, leur permet de vivre comme des patachons. Certains prix atteignent même les 6 chiffres, comme le paysage avec chevaux, attribué une fois de plus à Campendonk, que l'acteur Steve Martin achète pour 860 000 dollars. Mais leur plus gros pigeon sera un célèbre éditeur français, Daniel Philippaki. Et oui, salut les pigeons qui claquent 7 millions de dollars pour un faux Marx Ernst appelé La Forêt en 2006. Grisé par leur succès, Wolfgang raconte « Je me disais, allez, encore un ou deux pour 10 millions et je m'achète un palace à Venise et ensuite j'arrête. » Hélas, la combine va capoter avant que Wolfgang puisse acheter son palace, car même les plus habiles faussaires commettent parfois des erreurs. Vous vous souvenez des fausses étiquettes collées sur les tableaux, je vous en ai parlé. Eh bien, c'est là que ça coince. C'est la vente du tableau rouge aux chevaux de Campendonk qui fait tout basculer. Son acquéreur, contre toute attente, souhaite obtenir un certificat d'authenticité, qui évidemment n'existe pas. Il fait engager un expert pour une analyse plus poussée. Le résultat est accablant, il montre que l'œuf contient un pigment, le blanc de titane, qui n'existait pas. En 1914, date à laquelle Beltraki a daté le tableau sur la fausse étiquette.
À la boulette. Oui. Ah oui, j'ai fait la boulette.
À partir de là, tout va s'effondrer comme un château de cartes. Il suffit aux enquêteurs de retracer toutes les fausses étiquettes Fletchtime, de cette collection, entre guillemets. En 2010, c'est l'arrestation, la chute, même si à son procès, Wolfgang continue de charmer son monde, se présentant comme un sympathique farceur qui a voulu faire un pied de nez au milieu snobidard de l'art. Un genre de Robin des Bois qui s'est juste foutu de la gueule des riches, en le devenant lui-même, cela dit. Malin jusqu'au bout, l'accusation peinant à apporter les preuves décisives que Wolfgang est bien à l'origine de tous ses tableaux. En octobre 2011, un deal est conclu. Le couple reconnaît être coupable de contrefaçon, mais de seulement 14 tableaux. Et ils écopent, on l'a dit, de peines relativement légères. Depuis 2015, Wolfgang est libre et il vend à nouveau des tableaux, mais cette fois sous son propre nom. Les spécialistes estiment que durant sa carrière de faussaire, les Beltraki, en fait, ont écoulé non pas 14, mais des centaines de tableaux. La plupart n'ont jamais été retrouvés ni identifiés. Et, ironie du sort, il arrive encore au couple de tomber sur l'un d'eux au détour d'une visite de musée. Imaginez, Stéphane, que ce sublime Fernand Léger qui trône au-dessus de votre cheminée soit en fait un Beltraki.
Alors là, vous me la coupez.
Alors, c'est pas sûr, mais il y a une probabilité. Demandez à une expertise et de manière générale, montrez-vous prudent. Il y aura toujours des faussaires et des arnaqueurs prêts à profiter de la naïveté des pigeons.
Ça t'intéresse d'acheter du vin, Mathieu Noël ?
Ah oui, j'adore le vin. Tu fais à combien ?
Merci Mathieu. Bon, c'était à 91%
oui, à
vrai. Vous
n'avez pas de Fernand Léger au-dessus de votre cheminée. Non, enfin, vous avez un joli tableau quand même.
Oui, mais c'est pas.
C'est marrant que les faussaires, ils prennent beaucoup de l'art moderne. Il n'y a pas beaucoup de faussaires qui font du Léonard ou du Raphaël.
C'est quand même plus dur. Oui, c'est plus dur.
Mais c'est dingue. À part le blanc de titane, c'était parfait l'arnaque.
C'était parfait l'arnaque.
C'est incroyable, moi, je trouve.
C'est fascinant.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour. Ces couples de malfaiteurs, tantôt amusants, tantôt fascinants. Renouer maintenant avec le présent.
Oui Stéphane, c'est l'objet de cette dernière demi-heure, mieux comprendre le monde dans lequel on vit à l'aune du passé. Et pour mieux comprendre le monde dans lequel on vit, il faut bien évidemment remonter aux origines du tarama. Ça me paraît une évidence.
Hein, Olivier ? C'est essentiel, même on arrive petit à petit à l'heure de l'apéro. Là. Est-ce que vous n'en tartineriez pas un petit peu sur des blinis, par exemple, dont on a parlé il n'y a pas si longtemps ?
Très très volontiers. Oui, les sujets comme ça sont complémentaires.
Croisement.
C'est très beau. Le mot de la fin reviendra à Stéphane. Et aujourd'hui Stéphane, c'est pas l'histoire d'une expression, c'est l'histoire
Des noms d'animaux, exactement.
Pourquoi on appelle la dinde la dinde ?
La dinde, dinde, pourquoi le kangourou,
etc. Et pourquoi appelle-t-on le David Kstelops, le David Kstelops, que je n'arrive toujours pas à prononcer, mais on essaye à chaque fois. David, chaque jour, l'origine d'une invention, d'un objet du quotidien. Et ça, c'est une invention qui fait notre quotidien depuis quelques années. Effectivement, David Castello-Lopez, vous nous parlez des bornes Happy or Not pour noter les choses de la vie.
Oui, tout à fait. Alors, vous avez remarqué l'intérêt que j'ai pour l'origine des choses m'a permis quand même de pas mal voyager. Je
suis allé au Japon pour rencontrer l'inventeur du karaoké, l'inventeur des emojis. Je suis allé en Israël pour rencontrer l'inventeur de l'épilateur électrique, aux États-Unis pour rencontrer à peu près tous les autres inventeurs. Et ça, ça a fait que j'ai quand même beaucoup fréquenté les aéroports et toutes les joies qui vont avec, les bouteilles d'eau à 4,80€, les petits stands avec des PlayStation pour attendre l'embarquement.
Ça marche
sauf que
jamais.
Ça marche jamais.
Ça marche
et parfois,
jamais.
Quand
alors,
ça marche,
il y a un gosse qui squatte la console.
Voilà, vous faites ma blague.
Non, 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 pardon, mais le problème, c'est qu'on est tellement connecté avec David, je suis désolé.
Et puis surtout, les toilettes des aéroports où il y a justement ces bornes qui permettent aux gens de noter leur expérience aux toilettes. Ce sont souvent des bornes avec des boutons sur lesquels sont imprimés quatre smileys, hein, un smiley super content, un smiley un peu content, un smiley un peu pas content et enfin un smiley pas content du tout. Et ces smileys vous permettent donc de donner une note au moment que vous avez passé dans les toilettes. L'expérience a-t-elle été agréable? Y a-t-il eu des accrochages? Regrettez-vous l'absence de Moltonel? Mais il n'y a pas d'ailleurs que dans les toilettes qu'on trouve ces bornes, il y en a à l'enregistrement des bagages, à la sécurité, et même dans d'autres endroits, dans les magasins d'électronique par exemple, dans les supermarchés, dans les pharmacies, etc. Et donc moi, j'ai voulu savoir d'où ça venait. Et pour ça, j'ai dû une nouvelle fois prendre l'avion et aller en Finlande, dans une ville qui s'appelle Tampere. Je sais pas si vous connaissez Tampere. Tampere, c'est vraiment un endroit super. Déjà, on peut y faire ce que les Finlandais font de mieux, c'est-à-dire aller dans des saunas hyper chauds et ensuite se baigner dans des lacs hyper froids. Ils trouvent ça super de faire ça. Bon, moi, j'ai un peu plus de doutes là-dessus. Tampere, c'est aussi une ville de bûcherons high-tech. J'ai été très impressionné. C'est des bûcherons qui coupent du bois avec des machines du futur trop belles à voir, qui calculent la quantité de bois qu'elles sont en train de couper à mesure qu'elles sont en train de le couper. Ça, c'était très beau. Et surtout, donc, à Tampere, il y a un monsieur qui s'appelle Heikki Vaananen, on peut pas faire plus finlandais que ça, et qui est l'inventeur de ces bornes pour noter les choses de la vraie vie, qu'on appelle souvent, comme je le disais, les bornes Happy or Not, parce que c'est la marque qu'a créé Heikki. Alors Heikki, il a seulement un an de plus que moi, et je dois dire que ça m'a quand même un petit peu énervé, parce que je veux dire, lui il a inventé les bornes pour noter les choses de la vie, et moi je suis chroniqueur sur Europe 1. Heikki, il raconte que quand il avait 15 ans, il est allé dans un magasin d'ordinateurs, et il a voulu poser une question à un vendeur, mais il n'y avait pas de vendeur, et il était un petit peu énervé, et il a gardé dans sa tête cette idée que ce serait quand même bien si on pouvait dire immédiatement qu'on était énervé dans un magasin. Alors ça a mis du temps à germer dans sa tête, mais 14 ans plus tard, le 23 novembre 2009, après avoir fait plein de prototypes, la première borne pour noter les trucs de la vraie vie a été installée dans un supermarché de Tampere. J'y suis allé, c'est un supermarché normal, enfin en tout cas voilà, moi ça m'émeut toujours cet endroit, voilà, c'était ça le premier endroit et c'était à Tampere. Et ça a eu un succès énorme parce que ces bornes, elles ont répondu à un besoin super fort qu'avaient les entreprises de savoir ce que pensaient leurs clients. Parce que avant, en gros, la seule solution, c'était de dire à tout le monde, hey, prenez 10 minutes pour répondre à ce questionnaire de satisfaction et gagnez peut-être un iPad, vous voyez. Mais les gens qui répondaient, c'était des gens qui avaient 10 minutes à perdre sur un questionnaire, et donc c'était pas tout le monde. Alors moi, j'ai eu la chance qu'on m'offre une borne Happy or Not. C'est quand même un grand
meuble. J'espère que c'est grand chez vous.
Bah, pas tant que ça, mais je l'ai installé chez moi. Et quelquefois, comme ça, je note ma propre existence. Vous voyez, la blanquette de ce soir que j'ai faite moi-même, bah, peut mieux faire. J'ai trouvé les amis qui m'ont rendu visite un petit peu bête ce soir. Hop, smiley rouge. Et voilà. Et ensuite, je fais des petites statistiques. Je vous conseille. C'est vraiment super.
Et quand on sort de chez vous après une soirée, on peut noter la soirée aussi. On note.
Oui, mais c'est moi qui suis le responsable de la chose. Mais effectivement, c'est un retour qui peut être intéressant.
Il truque les résultats de sa borne Happy or Not.
Exactement.
Et je vous renvoie à un épisode de Black Mirror absolument stupéfiant où dans une société très proche, on noterait tout, y compris nous-mêmes, ce que paraît-il, les Chinois sont déjà en train de commencer à faire.
Ils le font dans une certaine
avec
mesure.
Avec des conséquences absolument terribles.
Donc ce mec-là a inventé un peu le monde de demain, le monde de Black Mirror.
Je vais bien noter aujourd'hui, David Castelhoff, je te note 5.
Si vous voulez noter, c'est la meilleure note.
5 sur 20, il a dit.
Si vous voulez noter David, allez sur les origines, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr. Dites-nous ce que vous avez pensé.
Bien évidemment. Et alors, je sais que vous ne penserez que du bien la chronique qui suit, puisque nous allons parler de Tarama. Un produit qui met tout le monde d'accord, sauf quand il est aromatisé la truffe, puisque là, Stéphane est pour, Olivier est contre. Mais d'où vient le Tarama?
Mais là où on est tous d'accord, c'est on ne veut pas de Tarama rose, parce que le rose est amené par...
Des produits chimiques.
Ouais, et vous allez être surpris par lequel d'ailleurs, je vais vous dire.
16h, 18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, l'émission dans laquelle on parle beaucoup de nourriture délicieuse sans jamais en consommer, puisque Olivier Pouls fait le travail à moitié. Il nous parle de l'origine des recettes, mais il n'apporte pas ces recettes.
Non, mais quand même, comme David est très consciencieux et prend l'avion pour aller vérifier partout dans le monde comment et aller voir les premières inventions, moi, avant, je travaille aussi, je goûte chez moi, voyez-vous.
Ah oui, mais vous êtes le seul à goûter, quoi. Donc
vous
on doit
goûter ici, quand même, à Europe 1.
Oui, mais le problème, c'est que si je goûte en direct, bah, j'ai pas le temps de préparer la chronique, voyez-vous. vous. Je le fais en amont, pour vraiment m'imprégner.
Alors, aujourd'hui
je me suis imprégné de tarama, et croyez-moi, j'en ai goûté quelques-uns pour vous préparer cette recette et cette chronique. Alors, le tarama, c'est une très vieille préparation qui vient de Grèce et de Turquie, globalement du bassin méditerranéen, où dès l'Antiquité, on a l'habitude et la coutume de manger des œufs de poisson, notamment le caviar, figurez-vous, on ne l'a pas inventé récemment, le caviar existe lui aussi depuis la nuit des temps.
Est-ce que ça a toujours été un produit de luxe ou c'était très répandu ?
Non, le caviar a été à un moment un produit extrêmement courant, extrêmement peu cher, d'ailleurs à l'époque où il y avait des esturgeons en grande quantité à peu près partout, ce qui n'est malheureusement plus le cas maintenant. C'est la raréfaction des esturgeons qui rend le caviar extrêmement cher et rare. Mais évidemment, le tarama n'est pas fait avec des œufs d'esturgeon. À l'origine, il est fait avec des œufs de mulet. Et d'ailleurs, quand on faisait les premiers tarama, donc cette purée d'œufs de mulet dans laquelle on rajoutait un peu de lait, un peu de mie de pain, des choses comme ça, avait une couleur, et a une couleur très légèrement, on va dire, beige, tirant vers le léger saumon. Et ensuite, on a remplacé les œufs de mulet qui sont plus rares et moins communs par des œufs de cabillaud. Et aujourd'hui, la grande majorité des taramas, c'est des œufs de cabillaud. Et là, pour le coup, la couleur est authentiquement claire, elle est très pâle. Et si vous achetez un vrai tarama fait maison dans les règles de l'art, vous avez un produit qui est blanc. Mais entre-temps, pour des raisons commerciales, on va dire, bien, on s'est habitué à manger des taramas de couleur rose, parfois rose carrément fluo. Et alors ce rose, c'est les industriels évidemment qui l'ont apporté. Et savez-vous d'où il vient ? D'un colorant très particulier qu'on appelle le E120, que vous repérerez sur les petites boîtes. Et le E120, c'est de l'acide carminique. Et l'acide carminique, c'est du carmin de cochenille. Et la cochenille, c'est un petit insecte. Et alors, c'est un insecte écrasé. C'est de la poudre d'insecte écrasée.
C'est ça quand on prend un tarama trop rose.
Alors, quand vous mangez des aliments avec le E120 dedans, eh bien, vous mangez des insectes, les amis. Donc, avant d'aller faire vos courses, vérifiez un tout petit peu, surtout en les faisant, d'ailleurs. Mais le tarama, qui est un produit qu'on ne connaissait pas très bien en France avant les années 80, qui est arrivé avec notamment l'entrée de la Grèce dans l'Union européenne, qui a amené ce plat. Oui, avant, il n'y en avait pas. C'est dans les épiceries grecques, et c'est la communauté grecque qui avait l'habitude d'en manger. Mais avant les années 80, le tarama était un produit pratiquement inconnu chez nous. Et donc, il arrive dans les années 80. Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de maisons, et je vais en citer trois, qui font de vrais bons taramas. Mais alors, dans les règles de la raideur, qui ne sont pas roses, c'est Petrosian, par exemple, c'est Bertouille, ou c'est Caviari.
Oui.
Non, mais détrompez-vous, évidemment, ce sont des maisons qui sont aussi spécialisées dans le caviar, mais le tarama ne coûte pas très cher. Un petit bocal de tarama fait dans les règles de l'art, c'est moins de 10 euros, c'est 7-8 euros. Et franchement, pour un apéro à 4, vous pouvez le faire. Donc, ça reste extrêmement abordable. Mais aussi, vous pouvez le faire vous-même, le tarama.
Mais alors, on achète des œufs de cabillaud.
Alors, voilà, il faut juste... Alors, il y a beaucoup de poissonniers qui vont vous vendre des poches d'œufs de cabillaud, il faut les demander, et qui ont normalement été même fumés. Alors, ça se présente sous une poche très fine. Dedans, il y a les œufs de cabillaud, vous allez les récupérer tout simplement. C'est enfantin à faire, vous les faites rouler comme ça, de manière à les égrainer. Il y a plein de recettes qui existent. Moi, je vous en donne une qui est très très simple. C'est que pour 300 grammes d'œufs de cabillaud, vous allez rajouter 100 grammes de crème fraîche, 50 grammes d'huile de pépin de raisin et un trait de jus de citron. Vous mixez ça très finement et ensuite, vous pouvez même, à l'aide d'un fouet, incorporer un petit peu d'air pour le rendre le plus mousseux possible. Et c'est terminé. Et vous avez un tarama.
Une autre recette,
délicieux et hyper facile. Et puis, il y a toute une mode aujourd'hui qui consiste à l'aromatiser. On parle à la truffe, certains le font. J'aime pas trop ça. Au wasabi, au crabe, à tout ce que vous voulez. Mais rien qu'un bon tarama avec des œufs de cabillaud, juste de la crème fraîche et un petit filet de jus de citron, c'est vraiment délicieux.
Ça permet quand même de bluffer ses amis. Quand vous dites que vous avez vous-même fait le tarama,
ça, évidemment. C'est la classe. Et puis, je peux vous dire que dans ce cas, vous ne mangez pas de l'insecte écrasé.
Alors ça, c'est pas mal, ça.
Rappelez-nous le colorant.
Ça s'appelle le E120. C'est le carmin de cochenille.
Le E120. Est-ce que c'est ce E120 qu'on retrouve aussi dans les jambons trop roses?
Non, ça, c'est à cause des sels nitrités, ce qui n'est pas meilleur. Le E120 ne pose pas un problème, apparemment, de santé publique, alors que le jambon trop rose, ça, c'est clair.
Merci beaucoup, Olivier Pouls.
Et oui, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr, Olivier. Stéphane est là pour nous guider dans la langue française, cette langue mystérieuse. Pourquoi appelle-t-on un chat un chat? C'est un peu la question qu'on va se poser aujourd'hui, Stéphane. Plutôt, pourquoi on appelle renard un renard, un kangourou, et pas l'inverse? D'où viennent l'origine des noms d'animaux?
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
L'heure est venue de plonger dans l'histoire des expressions et des mots avec vous, Stéphane. C'est le mot de la fin. Aujourd'hui, l'histoire des noms d'animaux.
Oui, aujourd'hui, pas d'expression à proprement parler, mais on va se pencher sur l'origine du nom de certains animaux. On va en faire plusieurs, histoire de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier.
Ah bien, allons-y, alors restons avec les gallinacés. Pourquoi on appelle les dindes des dindes ?
Parce qu'elles viennent d'Inde. Mais à l'époque, attendez, à l'époque où l'on croyait que c'était les Indes. C'est-à-dire, en fait, l'Amérique. Ça a donné le dindon, qu'on avait appelé à l'origine le dindard. On a également trouvé une grosse poule avec des couleurs chatoyantes sur les ailes. On s'est inspiré du portugais, qui pour dire pinte, dit pintade. Vous l'avez compris, ça a donné la pintade. Donc en fait, comme on croyait quand on a découvert l'Amérique, c'était l'Inde, ben voilà, le dinde, la dinde, le dindon et la pintade, tout ça vient d'Amérique.
Vous cautionnez, Olivier ?
Oui, c'est vrai, c'est paraît-il les premiers colons en arrivant d'avoir vu, l'appeler d'ailleurs la poule d'Inde.
Oui, la poule d'Inde.
Et qui est devenue tout simplement la dinde.
En portugais, on dit quand même Pérou pour parler de la dinde.
Pérou ?
Pérou, ça veut dire dinde. Donc c'est le Pérou, et en anglais on dit quand même Turquie.
Turquie, c'est vrai. Ah oui, Turquie.
On croit que ça vient d'ailleurs.
C'est très rigolo. Alors, en espérant ne pas trouver de renard dans le poulailler, d'où vient le mot renard, Stéphane ?
Eh bien, d'un livre que vous avez peut-être lu quand vous étiez élève. Enfin, je me demande toujours, j'ai interrogé le ministre pour savoir si on le lisait toujours. Il paraît que non. Le vrai nom du renard, c'est Goupil. On l'appelait ainsi au Moyen-Âge. Différents auteurs publient plusieurs récits imaginaires mettant en scène l'animal. On appelle ces récits le roman de renard, renard avec un T. C'est un exemple d'antonomase. Qu'est-ce qu'un antonomase ? Eh bien, c'est quand un nom propre devient un nom commun. La poubelle, mais en matière nutritive plutôt, le Roquefort, le Bordeaux. Il y a le tartuffe aussi.
Tartuffe, c'est encore autre chose. Un petit dernier, Stéphane, le kangourou.
Oui. Eh bien, à la fin du XVIIIe siècle, le naturaliste britannique Joseph Banks tombe sur le fameux marsupial en terre australienne. Il demande le nom de l'animal à un aborigène qui passe par là. Il répond « Kangourou, kangourou !» 200 ans plus tard, des linguistes découvriront, sûrement avec amusement, que « kangourou » voulait en fait dire en aborigène « je sais pas
». Génial. Il est temps, les amis, de refermer ce numéro d'Historiquement Vôtre qui était consacré aujourd'hui aux kangourous, mais aussi aux couples de malfaiteurs célèbres. À la demande de Stéphane, qui fait partie de leur cercle proche, vous aurez noté, chers auditeurs, que nous n'avons pas parlé de Patrick et Isabelle Balkany. Bah, je vous prie de m'en excuser quand j'ai vu que ça gênait Stéphane en compte d'ailleurs, je n'ai pas insisté. Stéphane, hormis vos amis Isa et Patoche, comme vous les appelez, quel couple de malfaiteurs vous a le plus fasciné, effrayé ou...
Ouais, j'ai bien aimé les Martha et Raymond.
Ah oui, vous avez un goût pour l'horreur, de toute façon. Non. Eux, ils ont zigouillé la petite fille, la mère, ils ont abandonné leurs enfants. Ça vous plaît, ça ?
C'est-à-dire, c'était passionnant. Je ne connaissais pas cette histoire, pour être franc.
Les tueurs aux petites annonces.
Oui, et je trouve ça intéressant.
Vous pouvez la redécouvrir sur le site europe1.fr. Déjà, une petite idée de ce qui nous attend demain, Stéphane ?
Oui, demain, t'as qui en philo ? On réunit des profs de philo célèbres de l'histoire. Le philosophe de l'Antiquité et fondateur du lycée, Aristote, puis le philosophe un brin pessimiste, Arthur Schopenhauer.
Oui, et un prof de philo beaucoup plus optimiste, Michel Leeb. Et oui, c'est pas une blague, hein, vous verrez demain, la philosophie ça mène à tout, et c'est ce qu'il faut retenir. À demain, mon cher Stéphane.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.